Grâce au Vivre Ensemble à Cannes, nous avons eu le privilège d'écouter Marek Alter la semaine dernière pendant une heure ou deux là. Et ça a été un moment extraordinaire pour ceux qui étaient là. Marek Alter, il est né en 1936, ghetto de Varsovie. Et puis, il a été délivré par les soviets. Il a passé du temps un peu en Union soviétique jusqu'à l'Ouzbékistan. Il est mais très en contact avec les autres cultures. Il a écrit en 1986 la mémoire d'Abraham et puis les enfants d'Abraham. C'est un ambassadeur de la paix, du dialogue interreligieux. C'est un gars assez extraordinaire. Et il nous a dit qu'il avait déjeuné régulièrement avec Paul II, qu'il avait discuté avec François Hollande, qu'il était en 89 avec son ami Rostropovitch sur le Berlin qui était en train d'être détruit et là où Rostropovitch a joué du violoncelle. Marek Alter, ambassadeur infatigable de la paix. Et il nous a fait la question à un moment qu'il n'était pas pratiquant. Juif non pratiquant. Wow. Que la dernière fois qu'il avait été à la synagogue, c'était à la mort de sa maman. On s'imaginait que c'était plus de 10, 15, 20 ans peut-être. Mais pour lui, il y avait quand même deux fêtes essentielles. Le Nouvel An et la Pâque. La Pâque qui est la seule fête, nous dit-il, qui célèbre la liberté et la libération. Et que nous avons tous besoin, dixit Calter, d'être libérés de nos esclavages. Et j'étais au fond de la salle, à l'espace Miramar, et j'avais envie de tendre la main et dire « Oui, oui, c'est vrai !» Et la libération, la Pâque, c'est dans l'exemple. Justement, l'Église évangélique libre, au fond, voire après, on fait une série de prédications sur l'Exode, la libération. Nous faisons une série de prédications moi, nous arrivons à la deuxième prédication du livre de l'Exode. Alors, la Pâque est passée, la première Pâque, la Pessah est passée, et puis le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec ce qu'on sait, l'ouverture de la mer Rouge, ou la mer des Joncs, c'est selon. Et puis, il y a bien eu quelques murmures, mais au mont Sinaï, on est dans le désert du Sinaï maintenant, dans le massif du Sinaï, avec le mont Horeb, à 2500 mètres même. Et là, Moïse passe du temps avec l'Éternel et il reçoit la Torah, les 10 commandements et d'autres lois aussi sur l'accueil de l'immigré, sur le Shabbat, sur d'autres choses. Et puis, maintenant, Dieu va donner à Moïse des instructions pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, pour construire le tabernacle. Et nous avons le livre de l'Exode, à partir du chapitre 26, toute instruction. Et avec ce verset, le peuple, c'est Dieu qui parle, me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai, dit-il à Moïse, le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra. Vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Et les instructions durent un petit peu. Pendant 6 chapitres, Dieu va donner des instructions à Moïse pour que il fabrique ce tabernacle selon toutes les instructions qu'il lui a données. Et puis après, il y a la réalisation du tabernacle pendant 6 autres chapitres. Il reprend toutes les instructions parce qu'on veut montrer que la réalisation se fait selon les instructions. Donc pendant 12 chapitres, on va parler du tabernacle et ne pouvait pas simplement sauter ces 12 chapitres en disant bon, c'est un peu fastidieux, un peu ennuyeux, mais bon, je prends mon courage à deux mains, je prends votre courage aussi par la même occasion pour en parler de ce tabernacle. Alors le mot tabernacle, surtout nos amis, enfin je sais pas si c'est nos amis canadiens qui aiment jurer sur le tabernacle, on ne sait pas trop pourquoi, mais si on sait, on aime jurer, enfin certaines personnes jurent sur ce qui peut paraître saint. Mais le tabernacle veut dire tout simplement, en hébreu, la tente, la tente royale, la demeure du roi, la tente de... Alors, pour nous, le mot tente représente peut-être le camping ou les chapiteaux du village sur la croisette, là, souvent, les belles tentes blanches, mais pour un Israélite, c'est très différent. Une tente, c'est sa maison. Une tente, c'est chez lui. Ce sont des nomades et ils vivent sous tente et Dieu leur propose de devenir leur voisin. Il va habiter parmi son peuple. Et dans cette tente, il y a, comme dans leur tente, une chambre, un foyer central, une cour, comme... Enfin, pas tout à fait quand même. Et je vous propose une visite guidée gratuite. De ce, enfin, passerai à la caisse plus tard, mais faire une présentation des lieux. Et puis, on proposera aussi de faire quelques pistes, un petit peu d'actualisation. Ce tabernacle et nous. Alors, le tabernacle, c'est d'abord un enclos de 80 mètres carrés, de 20 mètres. 40, délimité par des toiles et des piquets, comme on le voit, 100 coudées sur 50 coudées. 40 mètres sur 20. Et puis, à l'intérieur de cet enclos, il y a un parvis à l'air libre, avec juste devant l'entrée, un autel, l'autel que l'on appelle des sacrifices. Vous le voyez là, un peu à gauche. Et là, vous le voyez, avec des gens dedans, c'est mieux. On brûle les sacrifices. Et quand on rentre, on voit que ça, cet autel de sacrifices. On voit même pas la tente. On est comme si il fallait passer par là pour aller plus loin. Comme s'il fallait passer par là, par cet autel où on va sacrifier à l'époque des animaux pour le pardon de ses fautes, pour l'expiation des fautes. Cet autel nous barre la vie, comme s'il fallait passer par là pour aller plus loin, comme s'il fallait absolument faire quelque chose avec le mal qui nous colle à la peau. Ou comme dirait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce mal qui nous environne si facilement. On parle de péché, mais qui est un mal donc personnel, un mal devant Dieu. Et puis derrière l'autel des holocaustes se trouve une cuve avec de l'eau, vous la voyez un petit peu petite, pour la purification, pour que les sacrificateurs se lavent les mains et les pieds avant de pouvoir entrer sous la tente proprement dite. 60 mètres carrés cette tente, avec 5 mètres de haut, recouverte de toile, hein, pratiquement des recouverte. Il fait sombre à l'intérieur, il y a des tapis en dessous, il y a des tapis au-dessus, il n'y a pas vraiment de fenêtre, il y a une petite cheminée. Et heureusement, quand on rentre à l'intérieur, il y a le fameux chandelier à 7 branches qui donne de la lumière et qui est le symbole de la lumière, que Dieu guide le peuple, son peuple, à la lumière, et de l'huile aussi pour alimenter lumière. Le prophète Zacharie parlera de l'huile comme étant le Saint-Esprit qui vient alimenter la lumière. Et puis, dans ce lieu qu'on appelle le lieu saint, cette première pièce, il y a aussi l'autel des parfums ou de l'encens qui monte comme prière vers Dieu. Et puis aussi une table avec du pain dessus, qu'on appelle des pains des propositions, qui sont renouvelés Shabbat, une fois par semaine, et qui sont mangés par les prêtres, et qui est la table qui représente la communion avec Dieu, mais aussi la base de la vie, de la base de la nourriture. Et puis, il y a un grand voile qui sépare d'un autre lieu, d'une autre petite pièce, un vestibule, et on rentre alors dans le lieu très saint, un seul objet dans le lieu très saint, c'est le coffre de l'Alliance. Oh. Le voilà. Le coffre de l'Alliance avec les chérubins protecteurs qui sont là. Alors, on l'appelle souvent l'Arche de l'Alliance, et en particulier Indiana Jones parle de l'Arche de l'Alliance, mais c'est pas tout à fait exact. La version grecque de l'Ancien Testament, vous savez qu'on appelle la version des Septante, mais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, plus personne parlait hébreu, et donc on a traduit l'Ancien Testament dans la langue qui était la langue commune à l'époque, le grec, avec Alexandre le Grand, avec Philippe de Macédoine, son fils, qui ont envahi tout le Proche-Orient. Et donc, on parle grec, on le traduit en grec. Et c'est dans la version grecque qu'on a appelé l'Arche de l'Alliance, l'Arche de Noé, comme le panier dans lequel Moïse était. Ils appellent ça l'Arche. Mais en hébreu, c'est le coffre de l'Alliance. On fabriquera, nous dit Exode 25, on fabriqua un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Les barres devront rester en permanence dans les années du coffre. On ne les en retirera pas. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Et cet acte de l'alliance, ce sont les tables de la loi, les 10 paroles en cours d'écriture, et on le voit, le coffre, il est lié à l'alliance. Et ces tables de la loi sont un rappel de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est un peu comme tous les contrats d'alliance à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, entre le suzerain et son vassal. On place alors les documents en lieu sûr, dans le temple des dieux, en double exemplaire, dans un coffre-fort. L'alliance est scellée. Un commentateur nous disait, écrivait que au sujet de l'alliance, de ce principe d'alliance, qu'on a là une contribution très originale de la foi juive, de l'Ancien Testament, dans le domaine de la relation avec Dieu. Dieu fait alliance. Je cite, « Le Dieu de l'Alliance n'est ni un adversaire, ni un protecteur qui défendra systématiquement son peuple contre les autres, ni un maître ou un roi à qui il faut se soumettre. C'est un partenaire qui veut avoir avec son peuple une relation en vue d'une collaboration féconde. Dieu fait alliance avec nous, il nous veut partenaire. » Peut-être que la relation la plus proche de cette alliance de Dieu et les hommes serait le mariage. Une alliance entre deux partenaires solidaires, responsables, et qui en plus, qui sait, un amour-passion, un amour-tendresse, un amour-pardon, un amour-fidélité, un amour volonté. Le prophète Malachie disait, souviens-toi de la femme de ta jeunesse, mais aussi la femme de ton alliance, le contrat d'alliance. Et ce coffre est aussi appelé parfois le coffre du témoignage. Achi. Le coffre du témoignage, l'arche, le coffre ou le témoignage, parfois même on enlève le mot coffre et on appelle le témoignage dans la Bible, témoignage de l'alliance de Dieu avec son peuple, témoignage de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Au-dessus du coffre, il y a un couvercle que l'on appelle propitiatoire ou l'expiatoire. C'est là qu'une fois par an, le jour du Yom Kippour, du grand pardon, le grand prêtre rentre dans le lieu très saint et asperge le propitiatoire d'un petit peu de sang pour obtenir le pardon des fautes du peuple et de lui-même par la même occasion. Dans le lieu très, très saint, seul le grand prêtre peut y entrer et une seule fois par an. Luther l'appelait le siège de la miséricorde, le couvercle, le siège de la miséricorde, où se joue toute la miséricorde de Dieu. C'est pas étymologique, miséricorde, c'est la corde lancée à la misère de l'homme. La King James le traduit aussi comme cela. Moi, j'aimerais l'appeler, je suis bien loin d'être Luther, mais le couvercle de la grâce. Alors, que dégager pour nous? Je vous l'avais annoncé, le tabernacle et nous. D'abord, comment actualiser cela? D'abord, un rappel de l'Alliance. Un signe de l'Alliance entre Dieu et son peuple. Avec le tabernacle, il ne s'agit plus de monter pour tenter de voir Dieu et peut-être de mourir, parce que Dieu est un Dieu tellement saint, mais il est là, au cœur de nos déserts, dans nos vies de nomades. Dieu se met au niveau de son peuple, il fait alliance avec eux, et peut-être avec nous, partenaires. Et puis deuxièmement, ce tabernacle reflète la nature de Dieu et du culte qui doit lui être rendu. Dieu est... Je vais peut-être te demander à Mathieu d'appuyer à ma place. Dieu est grand. Dieu est grand. Et il mérite le meilleur. Et quand on lit cette construction de tabernacle, ces instructions, on se dit, waouh, ils veulent de l'or. Ils veulent des pierres précieuses. Un peu plus loin, il y a le pectoral du souverain sacrificateur, qui est serti de pierres précieuses, des rubis, du topaz, une émeraude, du saphir, des diamants. On veut le meilleur. On mérite le meilleur. On parlait de cathédrale, il mérite le meilleur. On parlait de cathédrale tout à l'heure. Moi, j'étais à Barcelone, ma fille habite à Barcelone. Il y a la Sagrada Familia qui est en train de se... Il y a encore 2-3 grues, mais on y arrive. C'est magnifique. J'aime beaucoup la cathédrale de Chartres. Respect. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Dieu est-il sensible au kilo d'or? Aux pierres, respect pour tout cela. Mais ce qu'il y a de plus précieux pour lui, me semble-t-il, c'est ta vie. J'en veux, il y a Paul qui le dit dans Romains 12, « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de toute la bonté de Dieu, de tout l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Vivant, hein ? « Ce qui sera de votre part culte, tout à fait ken en grec, tout à fait logique, plus précieux que j'ai à offrir, c'est ma vie pour Dieu. Rien de moins. » Et puis Dieu est le libérateur d'Israël. Ah, pardon, j'avais oublié. Dieu est le libérateur d'Israël, on en a parlé tout à l'heure, et il attend de nous un culte du cœur. Pour construire le tabernacle, il faut un peu d'argent, et Moïse fait appel au peuple, mais il appelle au peuple à faire des offrandes, mais il dit de bon cœur, volontaire. Dieu n'apprécie pas vraiment les robots. Dieu n'apprécie pas vraiment la foi sous la contrainte. Dieu n'apprécie pas vraiment les artifices. Dieu veut notre cœur, veut une foi du cœur. Et puis, Dieu est saint et Dieu est juste. Et il est nécessaire de présenter devant lui, juste et saint également, ou en tout cas en ayant conscience du décalage qu'il y a entre sa sainteté et sa justice et la mienne, et d'où l'importance de l'autel des holocaustes, de l'autel des parfums, du propitiatoire, expiatoire, tenir compte du mal. Vous savez, aujourd'hui, parfois, on dit, bon, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais s'il y en a un, et pas seulement chez les autres, chez les autres certainement, mais pas seulement. Dieu est saint et il faut tenir compte du mal que je subis et que je fais subir aux autres. Et puis, il y a un dernier élément intéressant, c'est que cette demeure est transportable. Dans les instructions, il est dit que pour chaque objet, il faut qu'il y ait des anneaux autour d'eux, en particulier du coffre de l'Alliance, mais pour tous les autres autels aussi, des anneaux dans lesquels on glisse les barres. Et il est dit, et vous l'avez lu tout à l'heure, que ces barres doivent rester dans les anneaux. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple nomade, et donc il faut tout transporter. Le tabernacle est transportable. Il doit être prêt à partir, prêt à transporter le tabernacle partout où le peuple ira, comme une genre de tente quechua. À chaque déplacement, le tabernacle est présent, et donc Dieu est au milieu de son peuple partout où il va. Un tabernacle, une présence de Dieu transportable. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit, chante Céline. Un tabernacle transportable, une présence de Dieu qui se transporte et qui te transporte. L'idée est intéressante. Et nous faisons un saint transport. Un transport de 1500 ans. Et nous nous retrouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 14. Jean, c'est le chapitre précédé de Rémie, il nous l'a dit plusieurs fois, et nous parle de l'incarnation. Dieu, la parole qui devient chair. Jésus qui s'incarne. Et il va utiliser aussi un verbe très fort. Au verset 14, celui qui est la parole est devenu homme, littéralement chair, hein, chair corporelle. Il est venu dresser sa tente parmi nous. Il est venu tabernacler parmi nous. C'est le même mot que dans Exode 25, dans la version grecque de l'Ancien Testament, que l'a écrit en grec dans Jean 14. Jean veut dire, il est venu dresser sa tente. Tabernaclé parmi nous, et ça c'est extraordinaire, et c'est absolument bien trouvé ça, de l'auteur de Jean, inspiré par l'Esprit qui parcourt toute l'Écriture, Jésus est venu planter sa tente parmi nous, la tente royale, le tabernacle, la tente de la rencontre. Le tabernacle, c'est lui. Le lieu de la rencontre, c'est lui. Et Jésus le dira à la fin de son ministère, après son ascension, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il campe parmi nous, il est avec nous, il demeure. Et le mot « demeurer » est un verbe important aussi. « Demeurer », il y a un sens de la continuité, de la permanence, malgré nos voyages, malgré nos détours parfois, malgré nos errements, ou nos errances, que nous soyons nomades ou sédentaires, que nous ayons un ou plusieurs déménagements à notre actif, il est avec nous, il garde notre départ et notre arrivée, nous dit le psaume 121. Et j'ai quelques images de tentes, de tabernacles, voilà, Dieu est avec nous dans nos mariages, dans les tentes de mariage, et puis dans nos tentes, là c'est une tente quechua aussi, je crois, publicité de Décathlon, bon. Familiale, et puis aussi des tentes solo. Quand on est seul dans la vie, il est là, dans nos déplacements, il tabernacle avec nous. Et donc l'événement Jésus vient donner une lumière nouvelle sur ce tabernacle. Comme on le dit souvent, enfin comme on le disait à la faculté de théologie, il y a entre l'Ancien Testament, ou le Premier Testament, et le Second Testament, il y a une continuité, mais il y a une rupture. Et cette rupture, elle est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ce tabernacle, mais il est aussi en même temps le grand prêtre. Celui qui vient faire l'aspersion du propitiatoire une fois par an. Jésus est ce grand prêtre, et c'est l'épître aux Hébreux qui nous en parle le plus longuement, le plus en détail. Le Christ est le prêtre d'une alliance nouvelle. Jésus est de loin supérieur à Moïse. Jésus est le grand prêtre pour l'éternité. Et il ajoute que tout ce qui était avant, c'était l'ombre des choses à venir, les types des choses à venir, mais que Christ est l'archétype de tout ce qui était prévu dans l'ancienne alliance. La réalité est en Christ, ou l'accomplissement est en Christ. Et j'aime bien, dans l'épître aux Hébreux, il y a un petit mot qui dit « Jésus, le grand prêtre, est entré dans le lieu très saint, une fois pour toutes. » C'est dit plusieurs fois. « Une fois pour toutes, par sa mort et sa résurrection. » Il est entré une fois pour toutes, il est, je peux entrer alors dans la présence de Dieu tout à fait librement, par son pardon, par sa grâce accomplie à la croix. Il n'y a rien à ajouter, tout est fait, une fois pour toutes, je peux m'approcher librement de Dieu en toute paix. Libre de moi-même et de mes propres chaînes, je peux entrer dans la présence de Dieu en Jésus-Christ qui est venu tabernacler sur mon terrain. Allez, je conclue. Il faut toujours se méfier des orateurs qui disent « je conclue ». De la désacralisation à la sanctification, ça paraît un petit peu mystérieux, mais je m'explique. Depuis la nuit des temps, et en particulier dans l'espace religieux, on a eu tendance à sacraliser les lieux et les objets. Et le coffre de l'Alliance ou l'Arche de l'Alliance n'ont pas échappé à la règle. On en a fait un objet un peu sacré, un peu mystique ou mythique et quasi magique. Et je cite Antoine Nouis qui dit « Le tabernacle est un signe de la présence de Dieu. Le problème est qu'avec le temps, le signe s'est sacralisé pour ne plus désigner que lui-même. » Autrement dit, quand on a un symbole, on a tendance en tant qu'être humain à se focaliser sur ce symbole et oublier ce qu'il symbolise, est de sacraliser le symbole et de vivre de ce symbole et se dire « ce symbole, c'est ça qui marche, ce lieu, c'est ça qui va me changer, cet objet, c'est ça qui va changer les choses ». Ça s'appelle la sacralisation. Mais Jésus, et vous passez l'expression, était un sacré désacralisateur. Jésus, le sabbat, à l'époque de Jésus, était devenu quelque chose d'extrêmement sacré. On ne touche pas au sabbat. Et les pharisiens de l'époque, ceux qui s'en tenaient à la lettre, un peu rigides dans leur foi, ils avaient sacralisé le sabbat. Et Jésus a pris un divin plaisir de désacraliser le sabbat, de guérir des gens le jour de sabbat, de se nourrir le jour, ou de ramasser des épis de blé le jour de sabbat. Et il va dire, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il faut pas se tromper, hein. Et puis, pour revenir au tabernacle, il va reprendre un épisode de la vie du roi David. Alors qu'il n'était encore qu'un chef de bande, il arrive dans un lieu où il y a, semble-t-il, le tabernacle. Et il a faim, et ses hommes ont faim. Et que va-t-il faire? Et Jésus va reprendre cet épisode, il va prendre des pains de proposition de l'autel, enfin de la table, des pains de proposition dans le lieu saint. Il va en prendre. Et Jésus va dire, et alors? Est-ce que c'est un sacrilège? Et Jésus va dire, mais non pas du tout, et je vous dis, il y a ici plus que le temple, il y a moi qui change tout, qui chamboule tout. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus désacralise un peu tout, le sabbat, le temple, le tabernacle, en son nom en fait, au nom du Fils de l'homme. Jésus est l'élément nouveau dans l'histoire du tabernacle et du temple, il vient un petit peu tout chambouler. Et quand je parle de sanctification, ce que je veux dire, c'est, et on l'a dit tout à l'heure, et Maryse nous a fait trouver des textes bibliques absolument magnifiques, c'est que le temple, c'est nous. Et nous, c'est quoi? C'est la communion des chrétiens, ou on peut dire des saints. Et nous avons été tous, non pas sacralisés, mais sanctifiés. On était profanes, on était dans l'errance. Et Dieu nous a mis à part, et nous a appelés à lui, et nous sommes devenus saints, sanctifiés. Et nous entrons dans un chemin, non pas de sainteté, mais de sanctification, où on avance pas à pas avec le Seigneur, où on tombe et on se relève. Mais on marche dans ce chemin de sanctification. Et on est guidé par le Saint-Esprit qui me conduit et qui me façonne toujours plus à l'image de Christ. Alors parce que la présence de Dieu dans ma vie, elle est une fois pour toutes. Son pardon, sa grâce, son amour est une fois pour toutes donné. Mais je suis invité à marcher sur ce chemin de sanctification, à accueillir le Christ sur mon terrain, dans mon jardin, pour qu'il puisse tabernacler avec moi et pour moi. On a la parabole des terrains, qu'on appelle souvent la parabole du semeur, mais c'est plus la parabole des terrains où on est appelé à préparer son terrain. Dieu demeure, place sa tente sur ton terrain pour peu que tu lui ouvres ton jardin. Et je pense aussi à ce texte magnifique. Ah. Ouais. La sanctification, préparer le terrain pour le campement. Ce magnifique texte de Osée, un petit prophète. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici, il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne. Moi, j'ai fait beaucoup de camping avec ma famille, de super moments. Mais quand on a notre terrain de camping, notre emplacement, comme on dit, ce qu'on fait d'abord, c'est on enlève quelques pierres, les brindilles, avant de mettre le tapis de sol, comme dans le tabernacle. Parce que sinon, pour dormir, c'est pas cool. Enlever ces pierres. Préparer le chemin du Seigneur. Et le texte que nous a lu Maryse tout à l'heure, était de Jérémie, de poser des actes de justice pour accueillir le Seigneur. Défrichez-vous un champ nouveau pour accueillir dans votre backyard, dans votre jardin, la tente du Seigneur. Trois questions pour la route. Quel objet ou quelle pièce du tabernacle me parle le plus? Pourquoi? L'autel des holocaustes, le bassin pour se purifier, l'autel des parfums, le chandelier, la lumière, la guidance du Saint-Esprit, les pains de proposition, la communion, ou le coffre de l'Alliance dans le lieu très saint. Deuxième question, quelles seraient les pierres enlevées de mon terrain ? Et troisième question, comment pourrais-je mieux prendre conscience du campement de Jésus dans ma vie, de la présence du Christ dans ma vie? On est souvent le nez dans le guidon. Et le Seigneur nous dit encore dans le Premier Testament, arrêtez et sachez que je suis Dieu qui tabernacle au milieu de vous. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole et ce voyage dans l'Exode.